Bonjour. Alors, si j'ai bien compris ou reçu ce que le Seigneur a voulu nous dire dans cette première partie du culte ce matin, il nous a été d'abord rappelé que Dieu nous a fait des dons, des cadeaux pour les mettre au service les uns des autres, et on a beaucoup chanté aussi des chants qui parlaient de l'onction de Dieu. On a besoin de l'onction de Dieu, de sa présence pour servir, pour aimer et pour rester près de Dieu. Et la prédication sera un exemple, l'exemple d'un jeune homme qui vient de recevoir une onction et qui va se mettre au service du Seigneur. Et on va voir comment il va pouvoir être en bénédiction pour son peuple. C'est un récit que nous trouvons dans 2 Rois 2, au chapitre 2, Rois au chapitre 2, versets 19 à 25. C'est le début du ministère d'Élisée. Élisée qui vivait dans l'ombre de son père spirituel, Élie. Élisée qui a vu son père spirituel être emmené par un chariot de feu dans le ciel. Et Élisée qui avait fait cette prière. Si cette prière à Élie, accorde-moi d'avoir une double onction de ton esprit. Et Élisée donc traverse le Jourdain et revient dans le pays et il va vivre un certain parcours. Ses premiers pas sur la Terre Sainte, en quelque sorte, ses premiers pas dans l'itinéraire d'Élisée, qui va reprendre finalement un peu le parcours d'Israël lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. Alors, verset 19. Les habitants de la ville, Jéricho, dirent à Élisée, « La ville est bien située comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. » Élisée dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, y jeta du sel et annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, je rends cette eau saine, et il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. L'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. De là, il monta à Bethel. Comme il montait par le chemin, de jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient « Monte, chauve ! Monte, chauve !» Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et elles déchirèrent 42 de ces jeunes. De là, il alla au mont Carmel, puis il retourna à Samarie. Que le Seigneur bénisse cette parole pour nous ce matin. Voici donc Élisée, fraîchement oint de la part du Seigneur, ayant reçu l'onction de la part du Seigneur, l'onction d'Élie. Et Élie, recevoir l'esprit d'Élie, ce n'est pas rien. C'est un héritage assez important. Je ne sais pas si vous vous souvenez des actions d'Élie, mais avec Élie, il ne fallait pas rigoler. C'était quelqu'un qui était assez strict. C'était un grand combattant pour l'Éternel. Il se croyait même le seul survivant, le dernier serviteur de l'Éternel, et c'est lui qui avait fait aussi tuer les prophètes de Baal. Et voilà, il ne fallait pas rire avec Élie. Mais quel va être le ministère d'Élisée? quelle va être sa façon d'être habité par l'Esprit. Le monde dans lequel vers lequel va aller Élisée, ce n'est pas un monde facile. Il va être témoin de Dieu, témoin de la grâce de Dieu, dans un monde souvent incrédule, rempli de moqueurs, comme on le verra, mais aussi un monde qui vit sous la malédiction, sous la condamnation à la stérilité. Et donc, après son onction, sa Pentecôte, en quelque sorte, Élisée est allé visiter l'une après l'autre les écoles de prophètes à Jéricho, à Bethel, au Carmel et ensuite à Samarie. Élie était un prophète solitaire. Élisée, lui, il allait visiter en quelque sorte les groupes de prophètes. Il voulait bénir les groupes de prophètes. C'était un homme de communauté. Alors, premier volet du texte aujourd'hui, c'est Jéricho. Vous vous souvenez de Jéricho ? Jéricho, la première ville conquise par le peuple d'Israël lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. Et c'est là que va commencer le ministère d'Élisée. Josué avait dit, après avoir fait tomber les murs de Jéricho, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera et bâtira cette ville de Jéricho. » Une ville donc en quelque sorte maudite, où il ne fallait pas redresser les murs. Josué avait poursuivi en disant « Celui qui reconstruira la ville, qui fera des fondations sur cette ville, il fera les fondations sur son premier-né et en posera les portes sur son plus jeune fils. » Et c'est ce qui se produit au jour d'Akab. Un homme s'est levé et a défié l'Éternel en construisant Jéricho et il a perdu ses deux fils, l'aîné et le Benjamin. Selon la parole de l'Éternel qu'il avait dite par Josué, fils de Noun, c'est cité en 1 Roi 16, verset 34. Jéricho est situé dans une vallée fertile du Jourdain, jouit d'un climat tropical, donc favorable à la culture, mais le problème de la ville, c'est que sa source est impure, sa source est salée, elle ne produit pas la vie. Et l'état de cette source est à mettre en parallèle avec la situation spirituelle d'Israël, le peuple d'Israël au nord. La source est polluée, la source d'Israël est polluée parce que sa source, ce n'est pas l'Éternel et ça ne peut pas produire la vie. Le mot hébreu « source » peut être traduit aussi par « le printemps ». C'est le printemps de la ville. De l'eau saumâtre. Alors, que va faire Élisée ? Eh bien, Dieu va conduire Élisée pour renverser la malédiction, pour renverser la situation, pour permettre à ce que la source redevienne source de vie. Et c'est ça le premier volet, en quelque sorte, du ministère d'Élisée. Il va non pas s'énerver, il ne va pas produire de grandes actions, mais il va demander quelque chose de tout simple. Apportez-moi un bol neuf, un nouveau bol, et mettez-y du sel. Du sel. Ce nouveau bol peut nous parler d'une nouvelle création, de quelque chose de nouveau que le Seigneur veut faire au travers d'Élisée. Cela nous renvoie aussi au ministère de Jésus qui est venu apporter quelque chose de nouveau. En quelque sorte, Jésus est le nouveau bol, celui qui est le nouvel homme qui va permettre que l'ancien soit mis de côté, que la malédiction ancienne soit surmontée et apporter la bénédiction. Le sel représente la justice, voilà. Mais alors on peut se poser la question, comment le sel peut purifier une source d'eau saumâtre qui est salée? C'est une bonne question. Hein, la réponse est là-haut. Mais ça marche, ça a marché. Mais on peut se poser aussi comment la mort peut-elle sauver de la mort? Comment une mort peut sauver une multitude de morts? Comment la mort de Jésus peut sauver de la mort des milliers d'hommes et de femmes? Eh bien, c'est en allant à la source. Élisée n'a pas jeté son sel n'importe où, il est allé vraiment à la source de l'eau. Et c'est là que la purification s'est faite. C'est comme l'œuvre de Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ, son œuvre doit s'appliquer à notre cœur afin que notre péché soit, enfin que notre vie soit sauvée du péché et de la mort. C'est là au cœur. Et ensuite, il y a cette parole qui est prononcée par Élisée, il n'y aura plus de stérilité. À partir de ce jour, il n'y aura plus de stérilité. Et on voit donc le premier des miracles accomplis par Élisée est celui de la grâce. Dieu a transformé un lieu de malédiction en bénédiction. Il a transformé un courant d'eau qui apportait la mort en courant d'eau qui apporte la vie. Si nous voulons voir cela dans notre vie, si nous voulons être cela aussi pour notre vie, pour notre entourage, si nous voulons être un courant d'eau qui apporte la vie, eh bien, il faut demander à l'œuvre de Jésus-Christ d'être efficace dans notre vie. Par son geste, Élisée veut dire quelque chose aux habitants de Jéricho. Parce qu'il faut se souvenir que Israël, au nord, avait versé, en quelque sorte, avait été corrompu, avait quitté le culte de l'Éternel, source de vie, pour le culte de Baal. Et l'idole Baal, qui était une idole importante dans tout le Moyen-Orient, l'idole de Baal, c'était l'idole de quoi? De la fertilité. De la stérilité. L'idole Baal prenait la fertilité. C'était l'idole de la réussite. Il fallait sacrifier au Baal pour avoir des enfants. Il fallait sacrifier au Baal pour réussir dans sa vie, pour que les champs puissent produire leurs produits, les arbres porter leurs fruits. Mais en fait, en agissant ainsi, Élisée disait que ces idoles étaient des menteuses, donnaient des fausses promesses et donnaient l'illusion. C'est l'Éternel seul qui apporte la vie. L'idole Baal continue à exister, bien sûr, le culte de la réussite, le culte du succès, le culte de la fertilité continue à être apporté par différentes idées dans notre société actuelle. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui apporte la guérison, la fertilité, la bénédiction et l'abondance. Et en cela, Élisée représente le Christ. Comme Élie annonçait Jean-Baptiste, Élisée annonce le Christ. Et c'est pour cela que la manifestation de l'Esprit est différente. La manifestation de l'Esprit est différente. J'ai guéri ses eaux, il n'y aura plus de mort ni de terre stérile à partir de là. » C'est une parole que nous pouvons entendre aussi, laisser résonner et dans notre cœur pour nous, pour que Dieu continue son travail de guérison dans nos cœurs et dans nos vies. Et ce n'est pas un avantage temporaire, mais c'est un avantage permanent que Élisée a accordé à la vie. Christ est ce vase neuf, ce bol neuf, rempli de sel qui vient purifier notre vie. À l'endroit même où la malédiction a été prononcée, Jésus vient apporter sa bénédiction. Il vient changer notre source, qui est notre cœur. Mais maintenant, passons au deuxième volet. Intéressant, hein ? Cette histoire d'Élisée qui monte à Bethel, c'était pas simple de monter à Bethel. Vous diriez combien de dénivelé positif, comme on parle, de dénivelé positif entre Jéricho et Bethel. Il faut se souvenir que Jéricho, c'est en dessous du niveau de la mer. Donc Bethel, ça fait à peu près un dénivelé de 1000 mètres. Donc il fallait grimper, il fallait monter, et surtout, Bethel, c'était sur une colline. Moi qui fais de la marche, ou hier j'ai fait un peu des travaux dehors, j'ai vite transpiré, il faisait chaud. Et qu'est-ce qui se passe quand un chauve a chaud? Son crâne il brille, il sue, ça transpire et ça brille vite. Alors on imagine facilement des adolescents qui sont là et qui trouvent un prétexte à rigoler, à se moquer. Monte chauve. Et c'est vrai que Élisée ne ressemblait pas à Élie. Élie était il faisait peur. C'était un velu. C'était un chevelu. Et dans la Bible, il y a des chevelus célèbres comme Samson. Et en quelque sorte, dans les idées de l'époque, bien être chevelu, avoir une abondance de chevelure, c'était un signe de force, de santé. Et donc, on respectait ceux qui étaient chevelus. Les autres, les chauves, c'était plutôt un signe de faiblesse. On les voyait peut-être moins. Et voilà, Élisée, il est comme il est, avec cette caractéristique. Et il monte dans ce village, Bethel, qui s'appelle, Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Ce n'est pas rien, il monte dans ce village qui était la maison de Dieu, un village béni, c'était un des endroits où Dieu avait enregistré son nom. Vous vous souvenez, au temps de Jacob, c'était là que Dieu avait manifesté sa présence. Mais, depuis longtemps, ce lieu béni par Dieu a été déshonoré. Ce lieu a été... Dieu a été déshonoré dans ce lieu, même le prophète dira que c'était devenu Beth Aven, ça veut dire la ville, la maison de l'idole. C'est dans cette ville aussi que Jéroboam avait construit un des veaux qui servait à Israël du Nord pour venir servir l'Éternel, soi-disant, pour concurrencer Jérusalem. Mais il y avait quand même une école de prophètes fidèles à l'Éternel dans ses murs. Mais le peuple de cette ville vivait dans l'incrédulité et C'était aussi là une des forteresses de l'idolâtrie phénicienne, Baal, qui avait été patronnée par le roi Achab. Alors, les jeunes sont là et ils accueillent le prophète à leur manière, en se moquant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils avaient reçu le tweet. Élie était parti, Élisée et son successeur, et il arrive. Alors, allons voir ce successeur. Les enfants, les jeunes, en dignes enfants de leurs parents, qui se moquaient de l'Éternel, qui avaient choisi pour, qui étaient des adorateurs de Baal, les enfants sont héritiers de ce qu'ils ont reçu de leurs parents. Et ces jeunes, ils se mettent à se moquer. Monte, monte, chauve. On pourrait traduire aussi crâne vide, crâne vide. Monte, entre guillemets, une ironie, monte au ciel comme ton prédécesseur Élie, comme il a été emmené sur des chariots de feu. Vous voyez, toute l'ironie peut avoir plusieurs sens, la moquerie peut avoir pas mal d'écho. Et là, ils se sont moqués du prophète Élisée, mais ils se sont moqués une fois de trop. C'était la foi de trop. Ça fait penser à nos réseaux sociaux. Ça fait penser à notre vie où on se moque facilement des hommes. On parle beaucoup d'harcèlement scolaire. On se moque de ceux qui sont gros, de ceux qui ont un strabisme, de ceux qui ont un petit défaut physique. Ceux qui ont vécu cela savent ce que ça veut dire, ce que l'on peut vivre lorsqu'on se fait moquer par ses camarades, par des personnes de notre entourage. Voilà, nous sommes à l'ère, dans les derniers temps, où il est dit que les moqueurs se multiplieront, eh bien, nous sommes dans cela, dans ce temps-là de harcèlement. Que révèle cette moquerie? Manque de respect vis-à-vis des aînés, manque de respect vis-à-vis d'un représentant de Dieu, manque de respect vis-à-vis d'un adulte, simplement d'une autre personne. Toute personne doit être respectée. Il n'y a pas de raison pour respecter quelqu'un. Chacun a droit au respect. Et le mépris, le ridicule, tourner quelqu'un en ridicule, c'est du harcèlement, harcèlement social, moquerie des différences, des croyants particulièrement. Vous pouvez peut-être avoir vécu cela et avoir souffert de cela. Alors, la réaction d'Élisée. Il était en train de monter, il y avait les enfants qui criaient derrière lui, qui se moquaient de lui. Il se retourne et il le regarde. Et il leur fait face. Il ne leur tourne pas le dos. Il ne les fuit pas. Il n'endure pas. Il fait face à la moquerie. Il les regarde. Et alors, nos traductions disent, il les maudit au nom de l'Éternel. C'est une parole lourde. Je ne vous invite pas à maudire. Jésus nous a dit, bénissez, ne maudissez pas. Bénissez vos ennemis. Nous sommes appelés à la bénédiction. Alors, comment comprendre ce maudire? Maudire au nom de l'Éternel. Alors, le mot utilisé ici n'est pas le mot le plus courant pour parler de malédiction, de prononcer une malédiction. On pourrait le traduire aussi par « trouver léger ». il trouve léger, il les trouve légers, ses enfants. Il dit, vous êtes un souffle, vous êtes léger. Il les méprise, méprisable. Il, en quelque sorte, les diminue. Il les dédaigne. Voilà. Donc, ça donne un autre sens. Et il les dédaigne, il les méprise au nom de l'Éternel. Ça veut dire que il ne donne pas du poids à ses paroles grâce à l'Éternel. L'Éternel est plus important. L'Éternel est plus important. Et Élie, ça fait longtemps qu'il en aurait trucidé un ou deux avec son épée. Élie, c'était autre chose. Élisée, lui, il n'a que la parole. Il n'a que la parole. Et c'est l'Éternel qui prend en charge ce problème. C'est l'Éternel qui vient répondre à ce problème. Alors, les 42 jeunes vont être victimes d'une attaque d'ours. Alors, le mot qui a été utilisé ici pour les déchirer, l'ours les déchira, ça veut dire les fendre. Comme l'Éternel a fendu le Jourdain pour laisser passer son peuple. Là, l'Éternel a fendu ses adolescents pour laisser passer son prophète, pour laisser passer sa parole. Comme notre cœur doit être aussi fendu pour que la parole puisse pénétrer, cette parole qui fend, qui nous permet de discerner la parole de Dieu. Élisée n'a pas pu dire quel serait l'effet de cette parole de mépris vis-à-vis des jeunes. C'est l'action de Dieu qui est intervenu. En punissant ces jeunes, en intervenant contre ces jeunes, c'est un châtiment qui, en quelque sorte, manifeste la sainteté de Dieu contre ses enfants. Dieu prend garde aux actes même des petits, des enfants, des adolescents. C'est une intervention aussi contre les parents, contre l'éducation des parents qui étaient coupables. Un châtiment finalement aussi contre toute la ville qui avait abandonné l'Éternel. Toute la nouvelle génération grandissait dans le mépris de Dieu et de la foi au Dieu d'Israël. Donc deux volets pour Élisée, où on voit qu'il a apporté la bénédiction, il a renversé la mort pour redonner la vie, et puis là, il a renversé les moqueries, il a dépassé les moqueries, il a traversé les moqueries pour aller rejoindre le peuple. Par la suite, donc, Élisée continue son chemin, il est allé ensuite au Mont Carmel et puis il allait à Samarie, le cœur du peuple d'Israël, et c'est là qu'il va établir son ministère, au cœur de Samarie. Alors que le Seigneur nous aide et que nous puissions être purifiés dans nos cœurs. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Hein, que le Seigneur nous aide. Jérémie disait, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Que le Seigneur nous garde de cela. Et qui nous garde de trouver l'accès toujours à la source du salut. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. C'est Jésus qui est la source de salut. Si aujourd'hui nous avons soif, faim, que nous puissions nous tourner vers le Seigneur. Si aujourd'hui nous avons souffert de harcèlement, de moquerie, si pour nous, nous souffrons du mépris, eh bien que nous tournions aussi auprès du Seigneur, qu'il puisse nous faire traverser ce mépris et qu'il remettons toutes choses entre ses mains, c'est lui qui agira. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit Jésus dans l'Apocalypse. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous as promis d'être loin de ton esprit. Et nous te demandons, Seigneur, que cet esprit, l'esprit de Jésus, vienne nous habiter. Seigneur, que tu nous remplisses de cet esprit de douceur. Seigneur, que nous puissions apporter la vie, Seigneur, dans les situations où il y a se répand la mort. Seigneur, que nous puissions apporter aussi la grâce, Seigneur, la bénédiction autour de nous. Et Seigneur, si nous devons affronter le mal, recevoir des pluies de moqueries, de reproches, Seigneur, aide-nous à faire face à ces reproches, à les regarder en face et puis à nous confier en toi et au nom de l'Éternel, Seigneur, ne pas nous laisser abattre par ces flèches qui cherche à nous atteindre. Oui, sois notre bouclier, protège notre cœur et oui, donne-nous d'être protégés par toi. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui prend soin des siens. Et nous te demandons de nous fortifier, de bénir chacun de nous, de bénir la reprise des activités de l'Église, Seigneur, des Églises aussi de toute la région, que tu bénisses ton peuple et que tu répandes ta grâce dans cette région. Au nom de Jésus. Amen.